propose donc déjà un verset dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, au verset 23. Le Christ est le chef de l'Assemblée, lui le sauveur du corps. Comme l'Assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos propres femmes comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin que lui se présentât l'Assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle. C'est le prix qu'elle a pour le Seigneur. Dans le livre des Actes, au chapitre 20, ce sont les adieux de Paul aux anciens d'Éphèse, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'Assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et il se lèvera d'entre vous-mêmes des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour attirer les disciples après eux. C'est pourquoi veillez, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. Je souligne la phrase à laquelle je pensais plus particulièrement. C'est donc verset 28. Il vous a établi surveillant pour paître l'Assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Donc, dans les Éphésiens, Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Et ici, c'est l'Assemblée de Dieu. Il l'a acquise par le sang de son propre Fils. Pensons à la valeur d'Assemblée pour le Fils et pour le Père. Pour le Fils qui s'est livré lui-même pour elle. Il a aimé. Pour l'acquérir, il s'est livré. Il s'est livré à la mort. Il a offert le sacrifice nécessaire pour pouvoir racheter l'ensemble de ceux qui forment maintenant l'Assemblée. Et il est dit le sauveur du corps, l'Assemblée qui est son corps. C'est cela aussi dans le premier chapitre des Éphésiens. Et ici, la chose est vue du côté de Dieu, c'est l'Assemblée de Dieu laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Dieu donc a désiré cette Assemblée, mais il fallait l'acquérir. Il l'a acquise par le sang de son propre Fils. Nous revenons toujours au sacrifice du Seigneur et aux douleurs de la croix. Car, facile de parler du sacrifice du Seigneur, mais représentons-nous bien et pensons à ce qu'il en a coûté au Seigneur pour qu'une assemblée existe sur la terre. Il s'est livré lui-même, lui l'homme sans péché, et quant à sa naissance et quant à sa volonté, et en toute chose ayant fait la volonté du Père, ayant reçu l'approbation, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir, et il a dû être fait péché pour nous. Fait péché. Nous ne nous rendons sans doute pas compte de la profondeur de la douleur du Seigneur lorsqu'il était fait péché. Nous voyons donc le résultat du fait qu'il était fait péché dans cet abandon de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors il avait toujours servi son Dieu constamment, ne pensant qu'à une chose, servir son Dieu, le glorifier en toutes choses. Et lorsqu'il est là entouré de la haine de l'homme, cloué sur le bois maudit, il doit crier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelle souffrance pour le Saint-Fils de Dieu, le seul homme qui ait été abandonné de Dieu et qui le sera dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y en a qu'un qui sera abandonné de Dieu, c'est Christ. Et c'était le seul juste, dans toute l'histoire de l'humanité, c'était le seul juste. Et c'est le seul qui était abandonné de Dieu. Il y a des hommes qui seront loin de Dieu éternellement. Ils ne pourront pas reprocher à Dieu de les avoir abandonnés. Ce sont eux qui se sont écartés, ce sont eux qui n'ont pas voulu être approchés. Quand l'apôtre a annoncé, n'est-ce pas, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Bon, maintenant, soyez réconciliés. Les hommes ne peuvent pas être réconciliés. Ils seront loin de Dieu. toute bouche sera fermée, ils ne pourront pas dire qu'ils ont été abandonnés. Christ est le seul qui ait été abandonné, lui qui était le seul juste. Et il a fallu cela. Il a fallu cela pour que nous soyons, nous, rachetés, que nous soyons approchés de Dieu comme des enfants de leur Père, pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit d'adoption qui nous fait crier « Abba Père », il a fallu la mort de Christ et sa résurrection. Car, bien sûr, il était écrit « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption ». Et le troisième jour, Christ est ressuscité d'entre les morts, et maintenant nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur, assis à la droite de la Majesté. Glorifié. Et lorsqu'il a été glorifié, il a envoyé le Saint-Esprit de la promesse. Auparavant, l'Esprit ne pouvait pas venir demeurer sur la terre. Auparavant, l'Esprit saisissait des hommes pour un service accompli pour Dieu, David, d'autres hommes, les prophètes. Tout était saisi par l'Esprit, était conduit par l'Esprit, parole de Dieu était mise dans leur bouche par le Saint-Esprit. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit demeurant en eux. Et ce n'était pas possible parce que, il est dit dans l'Évangile de Jean, Christ n'avait pas encore été glorifié. Alors Christ ayant été glorifié, il envoie le Saint-Esprit. Il envoie demeurer sur la terre. Il envoie demeurer dans les siens, dans les croyants. Et il peut leur dire, il sera avec vous éternellement. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Nous avons le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité, comme puissance pour marcher selon la volonté de Dieu. Né de nouveau, un homme qui a donc une nouvelle nature de Dieu n'est pas en mesure de se conduire selon la pensée de Dieu s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui fait tout, et le Saint-Esprit est Dieu. Bon, Dieu donc demeure en nous, demeure dans l'Assemblée, demeure dans les croyants qui forment l'Assemblée. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de solennel, car le Saint-Esprit est Dieu. Alors, nous sommes assemblés, par exemple, au nom du Seigneur, représentatif de l'Assemblée de Dieu qui est dispersée dans le monde. Non seulement le Seigneur a dit « Je suis là au milieu de vous », mais le Saint-Esprit demeure dans cette Assemblée, demeure en nous, et c'est lui qui va nous conduire dans ce qu'il est nécessaire de faire en tant qu'Assemblée. C'est quelque chose auquel il faut penser. Le Saint-Esprit, donc, a été donné par le Seigneur pour rassembler les siens. Nous voyons cela dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 12. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. C'est là le baptême de l'esprit. On dit beaucoup de choses autour du baptême de l'esprit. On veut en faire beaucoup de miracles, beaucoup de choses semblables. L'Écriture ne le dit pas. Le baptême de l'esprit a été donné pour rassembler en un ceux qui sont au Christ. Comprenons d'ailleurs la signification du baptême, plongé, nous sommes plongés dans l'esprit, et par ce fait que nous sommes dans le même esprit, nous sommes unis en un seul corps, avec tous ceux qui ont cru la parole de la vérité, l'évangile de leur salut. Ceux-là sont scellés de l'esprit, individuellement scellés de l'esprit, collectivement baptisés dans l'esprit, réunis en un seul corps, dont Christ est la tête glorifiée, scellés de l'esprit individuellement, l'esprit étant donné comme marque de l'appartenance à Dieu. L'esprit vient sceller la foi de l'homme. Ils ont cru en Christ, Christ présentant la parole de la vérité et étant l'évangile, étant la bonne nouvelle de leur salut. Quelqu'un qui est ainsi a cru à ce que signifie, à ce qu'a été le sacrifice, à la valeur du sacrifice du Seigneur pour son salut. Quelqu'un qui maintenant peut dire « Je suis sauvé ». Parce que Christ est mort et ressuscité, je suis là, et c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit demeure en lui. Bien sûr, ça ne peut être que des paroles. Ils vont prendre garde à cela. Mais s'il y a l'Esprit, en demeurant dans un croyant, il y aura manifestation de la présence de l'Esprit par le fruit de l'Esprit. Pourquoi par des choses extraordinaires ? Pas forcément par des dons considérables, ou par des miracles qui seront faits, non. Le fruit de l'Esprit. L'amour, la paix, la joie, la bienveillance, nous savons cela. N'est-ce pas dans les Galates au chapitre 5, il est question du fruit de l'esprit. Si nous marchons par l'esprit, nous n'accomplirons pas la convoitise de la chair et nous porterons le fruit de l'esprit. J'insiste sur le singulier, le fruit de l'esprit. Il y a 9 caractères du fruit de l'esprit. J'insiste sur le singulier parce que ce sont des caractères du fruit de l'esprit. Et des hommes peuvent être patients, par exemple, peuvent être... lisons quand même le texte dans les Galates, vous verrez qu'il y a des qualités là qui sont de l'esprit, mais qu'on peut retrouver aussi dans les hommes, tout simplement, même qu'ils peuvent, qui à nos yeux peuvent paraître des qualités naturelles. Hein. Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Oui, mais alors, par exemple, la tempérance, il y a des hommes dans le monde qui sont des hommes tempérants. Il y a des hommes qui sont naturellement bienveillants. Il y a des hommes qui sont... la longanimité, c'est le support de ceux qui s'opposent à nous. Bon, il y en a qui sont ainsi patients, n'est-ce pas? Oui. Alors, le fruit de l'esprit, c'est l'ensemble des caractères. Un homme qui est tempérant n'est pas pour autant un chrétien. Mais le chrétien qui est scellé de l'esprit, lui, on devrait voir en lui l'ensemble des caractères, les 9 caractères de ce fruit de l'esprit. Et si nous savons juger ce qui est de la chair en nous, si nous savons confesser ce qui est mauvais dans nos cœurs, si nous savons nous repentir de ce qui a pu être fait de mal, le Saint-Esprit sera libre dans nos cœurs et nous porterons ses fruits. Nous ne verrons pas. Je ne pense pas que nous voyons. Les autres le verront. Le Seigneur ne nous occupe pas de l'Esprit ou de ce qu'il fait pour que nous soyons retournés sur nous-mêmes en mesurant tous nos mérites. On tourne nos yeux vers lui. Et c'est quand on contemple le Seigneur, quand on regarde le Seigneur, qu'alors il y a transformation. Nous voyons ça dans les Corinthiens, le deuxième aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Le Seigneur est l'Esprit, mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Or nous tous, contemplant ta face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Contemplant à face découverte. C'est par opposition au voile. C'est pas par opposition au voile que les Hébreux ne pouvaient contempler que le voile. Ils sont entrés au-delà du voile. Pour nous, le voile a été déchiré. Et nous contemplons à face découverte la gloire du Seigneur. Alors il se produit, nous sommes transformés en la même image, même image que le Seigneur, de gloire en gloire, progressivement, comme par le Seigneur en esprit. Il y a donc transformation visible, on peut dire, chez celui qui contemple la gloire du Seigneur. On cherche souvent à savoir où on en est. On cherche à se faire briller. Et puis ça ne réussit pas, bien sûr. Dès qu'on détourne les yeux du Seigneur, qu'on les reporte sur soi, si je ne garde pas les yeux sur la gloire du Seigneur, si je ne suis pas occupé des choses du Seigneur telles que la parole me les présente, et je me contemple, moi, qu'est-ce que je vois? Ben, un pauvre homme. Un pauvre homme rempli de manquements, rempli de péchés. Bien sûr, je me regarde moi. Alors, si je me regarde moi, évidemment, c'est lamentable. Il faut regarder le Seigneur, il faut regarder, contempler le Seigneur pour être nourri du Seigneur et pour pouvoir porter quelques-uns de ses caractères, quelque peu de sa gloire à lui, de ce qui brille en lui, sera transmis à celui qui contemple sa gloire, contemple le Seigneur. Si nous détournons les yeux de lui, pour essayer de voir si on a fait des progrès, je doute qu'on puisse voir le moindre progrès quand on se contemple soi-même. On est occupé de soi, on n'est plus occupé du Seigneur. Et on ne verra pas le moindre progrès, parce que plus on avance, et plus on avance en âge, plus on se connaît, on devrait se connaître, et ma foi, on n'est pas fier de soi. Et plus on se connaît, moins on est fier de soi. Mais nous ne sommes pas appelés à nous mesurer, à nous contempler, à nous peser. Nous sommes appelés à contempler la gloire du Seigneur. Alors, occupé du Seigneur, oui, il y aura quelques résultats que les autres verront, mais que nous non, ce n'est pas la peine d'ailleurs, il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin d'être occupé de soi-même, ni même des uns des autres, on est occupé du Seigneur. Et il y aura transformation. Je reviens à cette question de l'Esprit, parce que c'est ce Saint-Esprit qui forme donc l'Assemblée, qui est son corps. Dit dans les Éphésiens qu'il l'a donné, que Dieu l'a donné pour être chef sur toute chose à l'Assemblée. L'assemblée de Dieu est composée de tous ceux qui ont cru et qui sont scellés du Saint-Esprit. Assemblée veut dire donc qu'ils sont ensemble, ils sont rassemblés. Et l'assemblée avait un service, un témoignage. Nous voyons ça au début du livre des Actes, ce qui est souligné pour les disciples au début du livre des Actes, au chapitre 2 d'abord, verset 41. « Ceux donc qui reçurent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Et ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. Et toute âme avait de la crainte, et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. Et tous les croyants étaient en un même lieu, et ils avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens, ils les distribuaient à tous selon que quelqu'un pouvait en avoir besoin. Et tous les jours, ils persévéraient d'un commun accord dans le temple, rompant le pain de leur maison. » Verset 47. « Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. » Passons au chapitre 4, verset 32. « La multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme. Et nul ne disait d'aucune des choses qu'il possédait qu'elle fût à lui, mais toutes choses étaient communes entre eux. Et les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était sur eux tous. » Je souligne, la multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme. Dans le texte que nous venons de lire, ils étaient tous en un même lieu. Tous, ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres. Voilà ce que représentait l'Assemblée à ce moment-là, à son début, dans sa jeunesse, on peut dire. Alors l'Esprit était pleinement libre. Alors il y avait toutes ces manifestations de l'Esprit qu'on ne trouve plus maintenant. Ou alors elles sont artificielles. Toutes ces manifestations de l'Esprit. Parce que l'Esprit était pleinement libre. Il n'y avait pas de choses à juger, pas de choses à condamner, pas de choses à ôter. L'Esprit était pleinement libre. Les croyants manifestaient leur unité et leur affection les uns pour les autres était manifestée. Bien sûr, ça s'est perdu rapidement. Non pas que le Seigneur ait cessé d'ajouter des âmes à l'Assemblée, car c'est lui qui les ajoute. On peut penser que dans des pays comme les nôtres, où la parole de Dieu a été répandue dans tous les coins, il y a bien des âmes de croyants. Seulement, voilà, est-ce qu'on peut les voir ensemble, en un seul lieu, unis d'un seul lieu? Il y avait, dit-on, dans les historiens profanes, il y avait à peu près, au jour de fête, comme c'était le cas, à Pentecôte, à peu près 1 million d'habitants à Jérusalem. Là, ils étaient 3000 convertis, après on en trouve 5000, les hommes seulement, les femmes devaient être autant. 10 000 personnes, en un seul lieu, un cœur et une âme. Prenons une ville d'1 million d'habitants, Lyon par exemple, je suis bien persuadé qu'on trouverait 10 000 croyants. N'est-ce pas? Parole de Dieu quand même, c'est sa propre efficace. Elle travaille dans les cœurs et les consciences, elle amène les âmes au Seigneur, la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on trouverait 10 000 croyants, un cœur et une âme en un même lieu? Bien non, on ne les trouverait pas. On ne les trouverait pas un cœur et une âme ensemble, ou même en différents lieux, mais un cœur et une âme ayant la même pensée, ayant les mêmes principes, marchant dans le même chemin, suivant la doctrine des apôtres. On ne les trouverait pas. C'est la dispersion. C'est la ruine de l'Assemblée. Nous sommes dans la ruine. Comme pour Israël, lorsque Israël a été dispersé à Babylone, c'est la ruine. La ruine à cause de notre infidélité, à cause de notre péché. La ruine. Quand je suis venu avec les frères, j'avais un peu de peine à comprendre ce mot, la ruine. Les deux frères, je parlais toujours de la ruine. Mais la ruine, puisqu'on était dans une assemblée, même une assemblée assez vivante, je dois dire, je ne voyais pas où était la ruine. Et pourtant, c'est le mot précis, c'est le mot exact. C'est la ruine. Parce que l'Assemblée telle qu'elle devrait se présenter au monde, eh bien, tous les croyants en un même lieu ici à Privas, tous les croyants, un cœur et une âme en un même lieu. Mais ils n'y sont pas. Et vous prenez n'importe où, c'est pareil. Ils ne sont pas. Alors c'est la ruine. Alors les pierres sont dispersées dans Jérémie. Il y a, dans les lamentations de Jérémie, il y a cette expression. et on peut bien jeter un coup d'œil dessus, elle est très, très, très parlante. Au chapitre 4, « Comment l'or est-il devenu obscur et l'or fin a-t-il été changé ? Comment les pierres du lieu saint sont-elles répandues au coin de toutes les rues ?» Les pierres du lieu saint sont répandues au coin de toutes les rues. Les Chaldéens étaient passés par là, enfin, en châtiment sur Israël, la maison de Dieu avait été détruite. Et les pierres du lieu saint étaient répandues au coin de toutes les rues. Mais est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui pour l'assemblée de Dieu, telle que Dieu que la comprendre, n'est-ce pas, savoir l'ensemble des croyants. Eh bien, l'ensemble des croyants est dispersé, répandu au coin de toutes les rues. Toutefois, nous savons qu'en ce temps, après la déportation à Babylone, le Seigneur a quand même suscité un empereur, Cyrus, qui a permis aux Juifs de revenir à Jérusalem pour reconstruire la maison de Dieu. Nous parlions ces jours passés, n'est-ce pas? Et ça a été un nouveau témoignage bien faible par rapport à ce qu'avait établi l'Éternel du temps de Salomon, mais néanmoins un témoignage. Si nous lisions dans le livre d'Agée, nous verrions que cette pauvre maison qui est reconstruite dans une ville en ruine, le Seigneur, l'Éternel, dit « c'est ma maison, ma maison ». Il avait mis son sceau sur la maison construite par Salomon, détruite. Une autre à la place élevée, pauvre maison, sans apparence, c'est ma maison. L'assemblée a été dispersée parce qu'elle n'a pas su garder cette puissance, cette liberté de l'esprit dans son sein. Il y a eu quantité de choses qui sont entrées dans l'assemblée. Nous connaissons les 7 lettres de l'Apocalypse, les reproches que le Seigneur fait à 5, particulièrement à 5 assemblées sur les 7, en disant « repens-toi ». Ils ne sont pas repentis. Alors, ils sont disparus. Les lampes ont été ôtées de leur lieu. Où est l'assemblée de Smyrne? Où est l'assemblée même d'Éphèse? Où sont-elles, ces assemblées? Châtiment est tombé sur elles. Alors, c'est la ruine. Les croyants y sont peut-être encore, mais l'assemblée en tant qu'assemblée, c'est autre chose que des croyants dispersés, puisque c'est une assemblée. Donc, les croyants sont réunis. Et si les croyants ne sont pas réunis, eh bien, il n'y a plus d'assemblée. Il y a les membres du corps de Christ, mais l'Assemblée. L'Assemblée, c'est autre chose. Et pourtant, le Seigneur voulait cette Assemblée sur la terre. Il l'aura dans le ciel, nous l'avons vu dans Éphésiens, n'est-ce pas? Il se la présentera lui-même, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais glorieuse. Et pour le moment, nous ajoutons, nous, les taches et les rides. Et nous avons besoin d'être réveillés à ce qu'est l'Assemblée de Dieu. À ce qu'est la représentation de cette Assemblée. Dans l'Assemblée de Dieu, tous les croyants qui sont membres du corps étaient scellés de l'esprit. La parole de Dieu faisait autorité. N'est-ce pas? Il persévérait dans la doctrine des apôtres. La parole de Dieu faisait autorité. L'Esprit Saint agissait avec puissance. Nous voyons les miracles du début. Et alors, le Seigneur était là. C'est lui qui ajoutait à l'assemblée. C'est lui qui présidait sur cette assemblée. Lui qui était la tête du corps. Ça fait quelques principes qui sont nécessaire pour que soit visible l'Assemblée de Dieu. Quelques principes nécessaires, mais il n'y a rien à y ajouter. De nos jours, ils peuvent être gardés comme ils l'étaient de ce temps-là. Oh, nous n'aurons pas tout le monde. Un résidu, comme lorsque la permission a été donnée aux Juifs de retourner à Jérusalem, ils ne sont pas tous rentrés, ils s'en font, 50 000 seulement. Alors que le dénombrement de David pouvait parler de 1 700 000, je crois, soldats portant les armes, ce qui suppose un peuple du double, du triple même. Et 50 000 seulement sont venus. Et pourtant, c'était ma maison, dit le Seigneur. Le témoignage était restauré à Jérusalem, là où il devait être. Et les Juifs ont rétabli le culte, là où il devait être. Et ils l'ont rendu comme ils devaient le rendre, comme Moïse avait écrit. Ils suivaient la parole de l'Éternel. Alors l'Éternel peut dire, c'est là ma maison. Bien, voilà. Les croyants aussi, dans la Nouvelle Alliance, les croyants de l'Assemblée, dans la période de la grâce, sont dispersés, hélas. Un ennemi a fait cela. mais nous lui avons donné la possibilité de le faire. C'est ça le plus grave. Et alors, est-ce qu'on va se laisser ainsi disperser? Est-ce qu'on n'a pas revenir à ce qui était dès le commencement, non pas à la foule qu'il y avait au temps des actes, mais au principe qui réunissait ces gens, ces croyants du temps des actes, être réunis autour du Seigneur, au nom du Seigneur? C'est à souligner, il ne s'agit pas de venir à la réunion par tradition, parce que bon, les parents y étaient, donc il n'y a pas de raison que les fils n'y viennent pas. Parce que si j'y vais pas, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que bon, il faut bien faire quelque chose. Bien le dimanche matin, il faut bien être quelque part. Venir au nom du Seigneur. Venir en comprenant ce que représente le nom du Seigneur. Et sa personne qui est là, puisqu'il a promis sa présence aux deux ou trois assemblées à son nom, je suis là au milieu d'eux. Je suis là. Nous venons rencontrer le Seigneur. C'est solennel de rencontrer le Seigneur. Bien sûr, nous sommes dans la période de la grâce, bien entendu, mais il n'empêche quand même que c'est le Seigneur, le Créateur de toutes choses, c'est Dieu, Dieu le Fils, qui là se trouve présent au milieu de deux ou trois croyants qui l'entourent. Présent réellement, si invisible, bien sûr, mais présent néanmoins, n'est-ce pas, au milieu des deux ou trois. Alors nous venons là avec quand même des cœurs réveillés, je pense, n'est-ce pas? Si c'est une habitude, si c'est une tradition, si c'est simplement, bon ben, il faut y aller, quoi, puisque tout le monde va à un culte. Maintenant, la chose est bien dépassée. Mais voilà, non, attends, prenons garde. Prenons garde à venir au nom du Seigneur, en comprenant réellement que le Seigneur est vraiment présent au milieu des deux ou trois, et ce que représente cette personne bénie du Seigneur. Et là, ils ne peuvent venir se joindre à lui, se joindre autour de lui, que ceux qui sont croyants. Les incrédules n'ont pas leur place, là, bien sûr. D'ailleurs, les incrédules n'y viendraient pas. Mais je pense aux incrédules religieux, qui eux, y viendraient volontiers. Lorsque on a lu ces jours-ci, dans Esdras, n'est-ce pas, ce qui concernait le retour, justement, à Babylone, les sacrificateurs en particulier, il y avait parmi ces sacrificateurs, il y en avait qui n'ont pas pu montrer leur généalogie. Ils ne pouvaient pas affirmer ou démontrer qu'ils étaient fils d'Aaron. Donc, Tirchata leur a dit, hein, vous êtes exclus de la sacrificature, parce que vous êtes profane, vous n'êtes pas fils d'Aaron, alors bon, vous ne pouvez pas le montrer. Alors, il ne faut pas manger des choses très saintes, jusqu'à ce que soit suscité le sacrificateur avec les urim et les thumim, donc les pièces qui permettaient à un sacrificateur de discerner la pensée de Dieu. Elles étaient perdues, les urim et les thumim. Comme les généalogies étaient perdues, c'était la ruine, alors c'était perdu. Et pourtant, ceux qui étaient là, eh bien, ont agi avec fidélité en disant « Non, vous ne pouvez pas manger des choses très saintes. Vous ne pouvez pas montrer que vous êtes sacrificateur, vous ne pouvez pas sacrifier, vous ne pouvez pas agir en tant que sacrificateur. » Nous devons faire cette distinction aussi. Nous devons connaître ce texte parce que on nous demande souvent « Mais montrez-nous, il y a un examen pour être admis à la table du Seigneur. » Eh bien, c'est là. Je pense que tous le connaissent, mais enfin, on peut le relire. Hein. C'est dans Esdras. Esdras, chapitre 2, verset... Commencez à verset 59. Voici ceux qui montèrent de tel Mélac, de tel Archa, de Kérubatan, d'Imer. Mais ils ne purent pas montrer leur maison de père et leur descendance s'ils étaient d'Israël. Alors les fils d'Israël, les fils de Tobija, etc., n'est-ce pas? Et puis au verset 62, ceux-ci cherchèrent leur inscription généalogique, mais elle ne se trouva pas. Et ils furent exclus comme profanes de la sacrificature. Et le Tirchata leur dit qu'ils ne devaient point manger des choses très saintes jusqu'à ce que fût suscité un sacrificateur avec les urim et les thumim. Donc, déjà, un tri, on peut dire, un examen, on peut dire. Et on peut montrer ce passage à ceux qui disent, mais dans l'Écriture, il n'est pas question d'examen pour s'approcher de la table. Si, il est question. Il est question que les sacrificateurs seuls peuvent rendre de sacrifices. Alors nous sommes réunis autour de la table du Seigneur pour rendre sacrifice de louange. Nous sommes appelés à ça. Dieu cherche des sacrificateurs, des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, et ces adorateurs adressent la louange à Dieu. Et ceux-là doivent être de vrais adorateurs. Bien sûr, il y a aussi ceux qui ne remplissent pas les certaines conditions. Nous voyons dans Timothée, au chapitre, la deuxième à Timothée, qu'il y avait aussi quelques distinctions à faire. 2 Timothée, chapitre, verset 19. Le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Et qu'il se retire de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur. Un mot sur ce verset déjà, n'est-ce pas? Le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Eh bien, dans ces sacrificateurs qui venaient à Jérusalem sans pouvoir montrer leur généalogie, il y en avait peut-être qui l'étaient. Le Seigneur les connaissait. S'il y avait eu les urimes et les thumimes, bien sûr, le sacrificateur Tirshatha aurait pu discerner. Mais voilà, il n'y avait plus moyen de discerner. Alors, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Mais qu'il se retire de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur. Alors, nous ne pouvons pas sonder les cœurs, mais nous pouvons voir la conduite. Nous pouvons voir la marche, nous pouvons voir les associations, et nous devons tenir compte et de la conduite, et des associations, et de la marche, de la pensée, de la doctrine de celui qui veut s'approcher. Nous devons tenir compte, nous devons examiner, et on ne peut pas laisser approcher n'importe qui. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens, bien sûr, et il y en a partout des siens. Vraiment, il y a une certaine conduite à tenir. Quand on est du Seigneur, on se retire de l'iniquité. L'iniquité, ce n'est pas forcément un péché grossier. L'iniquité, c'est l'injustice. Il y a une note là, injustice. L'injustice à l'égard du Seigneur, par exemple, qui a fait faire le sacrifice pour nous racheter parfaitement, nous sanctifier parfaitement. Quand on veut ajouter quelque chose au sacrifice, je pense aux églises catholiques, orthodoxes et autres, qui veulent ajouter des œuvres au seul sacrifice du Seigneur pour pouvoir que les âmes soient sauvées, si on peut être sauvé par les hommes, ce n'est pas la peine que le Seigneur s'offre en sacrifice. Je pense aussi au fait que le Seigneur a été glorifié, a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit peut conduire un rassemblement. Si on veut mettre un homme à la place, c'est une injustice à l'égard du Seigneur. Il est mort et il est ressuscité, il est glorifié pour pouvoir envoyer le Saint-Esprit. Il est venu. Bon, alors on met un homme à la place, c'est une iniquité. Une injustice, c'est ça. Tas de choses comme ça qui ne sont pas moralement condamnables, mais qui sont quand même à côté de la vérité. Je pense par exemple à la messe. J'étais catholique. Donc la messe, c'est un sacrifice renouvelé. Sacrifice non sanglant, d'accord, mais enfin sacrifice renouvelé. Et tous les matins, le prêtre, donc, lorsqu'il prononce les paroles de consécration pour l'hostie, il renouvelle le sacrifice du Christ. Il est mort une fois pour tout. Il s'est offert une fois pour les péchés, c'est écrit. Il n'a pas souffert plusieurs fois, une seule fois. Par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Je disais cela l'autre jour à une catholique qui lit l'Écriture, qui est dans un groupe charismatique aussi. Et alors bon, on lit un passage, prend les Hébreux, sans même penser à cela, mais par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Mais alors, si on continue de lire la Bible, ça va nous poser des questions, nous, avec la messe. Je lui dis, écoutez, c'est pas moi qui vous l'ai dit, vous m'avez demandé de lire un passage, je lis ce passage. Mais effectivement, ça vous posera des questions avec la messe. Lire la Bible et aller à la messe, ça ne va pas ensemble. Alors, il y a ainsi ce qui est l'injustice à l'égard du Seigneur, l'iniquité, qui n'est pas forcément, je le répète, pas grossier, pas amoral, mais qui n'est pas selon la pensée de Dieu, qui n'est pas selon la doctrine des apôtres. Or, le croyant qui doit se retirer de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur. Et puis, sur les grandes maisons, nous savons, grandes maisons où il y a des vases à honneur, des vases à déshonneur, et nous sommes appelés, nous purifier, des vases à déshonneur. Pour se réunir, il est dit, au verset 22, fuit les convoitises de la jeunesse, poursuit la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Est-ce qu'ils seront meilleurs que les autres? C'est pas dit. Mais le cœur pur, comment est-il obtenu le cœur pur? Par la confession des fautes. Toujours. N'oublions pas la confession des fautes. Quelquefois, on traîne des péchés qui n'ont pas été confessés, on les a sur la conscience, et on peut les avoir quelquefois des années, peut-être toute une vie. Un péché sur la conscience parce qu'on n'a pas osé venir au Seigneur en lui disant « Voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai fait. » Peut-être même quelquefois, il faut le dire au frère. Dire au frère, va dire « Voilà ce que j'ai été. » Bien oui, on n'ose pas. On n'a pas l'hardiesse. L'hardiesse d'agir comme le Seigneur voudrait que nous agissions. Et on est là, chargé, et puis en fait, on est une entrave pour l'esprit. Et nous avons besoin de penser à cette affaire. Nous sommes purifiés par la confession, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais la nécessité de la confession, c'est indispensable tout au long de la vie. Ne croyons pas que nous allons arriver à être des purs. Même quand on aura 70 ou 80 ans, on ne sera pas plus pur qu'à 20 ans. N'est-ce pas? La chair est en nous et la chair, elle se corrompt. Donc on est pire à 80 qu'on l'est à 20. Mais la confession présente le péché au Seigneur et le Seigneur, lui, par son sang, purifie. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés. Il ne s'agit pas du salut, j'espère que tout le monde le comprend ici. Le salut est acquis pour tous ceux qui croient. Il est fondé sur Christ, donc il ne peut pas être changé, il ne peut pas être perdu. Le salut ne peut pas être perdu. Insister sur ce point aussi. Parce que Christ nous a acquis le salut. Parce que lui, par son sacrifice, qui ne peut pas changer, nous a acquis le salut. Mais il y a un salut de la marche, un salut du témoignage. Il est dit dans les Philippiens, travaillez à votre propre salut. Eh bien oui, travaillez à votre propre salut. Eh bien, c'est vrai pour l'Assemblée. Est-ce que nous avons travaillé au témoignage de l'Assemblée? Parce que c'est là la question. Alors, on peut perdre ce témoignage. On rappelle du frère Chaudier qui souvent répétait, n'est-ce pas, le Seigneur aura un témoignage jusqu'à son retour. C'est pas certain que nous serions les témoins. Alors, voilà, c'est pas certain parce que nous pourrions perdre le témoignage. Témoignage y sera, mais si nous ne sommes plus le témoignage, alors à quoi servirons-nous? Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés, bien sûr. Il ne faut quand même pas se bercer avec l'idée que nous sommes sauvés, que rien ne peut nous arriver. Il y a le tribunal de Christ, à la fin. Lorsque nous comparaîtrons, il dit, nous comparaîtrons tous, nous serons tous manifestés devant le tribunal de Christ. Manifestés dans ce que nous avons été dans notre vie. Alors il y aura là des pertes et des récompenses, mais il y aura des pertes. Il y aura des pertes, des humiliations, quand on verra ce que l'on a été. Quand on verra le temps qu'on a perdu. Quand on verra qu'on a été occupé à des choses parfaitement inutiles. Alors que le Seigneur plaçait devant nous des services utiles pour sa gloire. Et je dis ça sans esprit de jugement, parce que je le dis pour moi. Quand on prend l'Écriture, c'est l'épée à deux tranchants. On peut parler aux autres, bien sûr, puisque... Bon, le Seigneur nous a donné la capacité de parler, on peut parler aux autres. On parle en même temps pour soi. Évidemment, l'épée à deux tranchants. N'évitons pas l'épée à deux tranchants. Il est bon, elles sondent les cœurs, les intentions du cœur, elles sondent les reins. Et nous avons besoin d'être découverts devant le Seigneur. Que le Seigneur puisse nous dire, voilà ce qu'il y a dans ton cœur, voilà où tu en es. Je reviens encore au livre d'Agé, par exemple. Lorsque le peuple disait, il y avait les ennemis qui étaient là, qui étaient bien plus puissants que lui, ils avaient baissé les bras. Et puis le travail de la maison de Dieu s'était arrêté. Et l'Éternel envoie donc Agé pour réveiller le cœur du peuple. Et vous dites, le temps de la maison de Dieu pour la bâtir n'est pas venu. Pas venu, puisqu'il attend de lui. Pas venu, c'est pas le moment. Et vos maisons lambrissées. Vous courez chacun à vos maisons lambrissées. Alors, l'Éternel avait bien discerné le cœur du peuple. Le cœur était occupé de ses propres intérêts, de ses propres maisons. Et puis la maison de Dieu, ma foi, a été dévastée. Elle est restée dévastée. Mais là, l'Éternel n'a pas dit, ce sont vos ennemis qui sont plus forts. C'est pas possible. Puisque Dieu était avec eux, donc les ennemis ne pouvaient pas être plus forts. Mais c'est l'ennemi intérieur, on peut dire, c'est le moi dans le cœur, n'est-ce pas? C'est celui-là qui amène toute notre faiblesse. Dans le temps de la grâce comme dans le temps de la loi, c'est là où se trouve toute la faiblesse. Dans l'assemblée comme dans la marche individuelle, c'est là que se trouve toute la faiblesse. Nous sommes occupés de nos intérêts, qui ne sont pas forcément condamnables, les intérêts, mais qui occupent le cœur de telle manière que, ma foi, la gloire du Seigneur, le service du Seigneur, qu'est-ce que vous voulez? Il faut faire la part des choses, voilà. Et bien le Seigneur ne demande pas que nous fassions la part des choses. Il veut notre cœur tout entier. Et je le répète, je le dis sans esprit de jugement. Bon, Bien sûr, bon, je suis à l'œuvre, c'est d'accord. Bon. Alors on dit, bon, il sert le Seigneur facilement, il n'a pas besoin de gagner sa vie dans une usine. Sans doute, il cure des frères à l'œuvre, même des autres. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est un terme qu'il ne faut pas employer, ces frères à l'œuvre. Est-ce qu'il y a des frères qui ne sont pas à l'œuvre? Est-ce qu'il y a des frères qui ne font rien pour le Seigneur? Est-ce que nous ne sommes pas tous engagés dans une œuvre qui est le maintien du témoignage dans un monde hostile, un monde ennemi, avec un adversaire qui sans cesse attaque, et de nos jours encore plus qu'avant? Alors nous sommes tous à l'œuvre, et nous sommes tous chargés de maintenir ce témoignage, et de revenir, et je crois que de nos jours, il faut repenser à ce qui était dès le commencement, au principe du commencement. Les croyants réunis au nom du Seigneur, sous l'autorité de l'Écriture, l'autorité de l'Écriture. C'est important l'autorité de l'Écriture. C'est-à-dire, je veux dire, c'est important. Bien entendu, nous sommes tous d'accord sur ce point. Mais encore faut-il pas en mettre de côté le passage. Il faut la prendre telle qu'elle est écrite. Pour toute chose. Pour notre vie familiale, par exemple. Pour élever nos enfants, par exemple. Alors que, bien sûr, l'Écriture est opposée à la pensée du monde. Est-ce que nous allons laisser faire n'importe quoi à nos enfants? Est-ce que nous allons les laisser aller dans des chemins de perdition, si on peut dire, et puis d'amoralité, comme il en est dans les familles du monde autour de nous? Qu'est-ce qu'on voit de nos jours? Les garçons, les filles qui vivent ensemble, comme ça. Fornication. Dieu dit fornication. Il dit même pas, bon, ben, c'est peut-être des fiancés. Non, il dit fornication. Vous vivez ensemble, sans être mariés, fornication. On trouve peut-être pas encore cela dans la famille des frères. Mais les chrétiens qui sont autour de nous, il y en a quand même pas mal qui sont dans cet état. Alors, prenons garde que ça ne gagne pas les familles des frères. On laisse se faire à n'importe quoi aux enfants, et l'Écriture nous dit, mais ne néglige pas la verge pour ton fils. C'est pas les raisonnements avec le fils, c'est la verge. Et si tu le châties, eh bien voilà, il s'en portera mieux dans son chemin. Nous oublions cela, parce que le monde nous presse, parce que le monde, comment dirais-je, nous transmet sa façon de penser, alors que nous avons l'Écriture pour toute la vie, toutes les faces de la vie que nous avons amenées sur la terre. Le Seigneur veut nous conduire pas à pas, nous montrer ce qu'il en est dans la famille, autorité du père, soumission de la femme au mari, soumission des enfants aux parents, obéissance des enfants aux parents, c'est pas pareil. Soumission de la femme, mais soumission de cœur, obéissance de cœur. L'obéissance des enfants, les enfants doivent obéir, que ça leur plaise ou pas. Il est réclamé à la femme la soumission, le cœur porté à obéir. La nuance. Eh bien, ça devrait être notre maison, nos maisons. On peut être manqué de ce côté-là, n'est-ce pas? Mais aussi dans l'Assemblée, c'est pareil. Est-ce que nous avons toujours respecté ce que Dieu veut dans l'Assemblée? La tenue des uns ou des autres, des unes aussi et des autres. La tenue, on discute maintenant savoir si la femme doit être couverte ou pas lorsqu'elle est réunie en assemblée. Il n'y a pas besoin de discuter, c'est écrit. Alors, il n'y a pas besoin de discuter. On discute si la femme doit avoir les cheveux longs ou pas. Et ici, il dit que c'est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, c'est écrit. Et si nous savions dire c'est écrit, comme le Seigneur disait, c'est écrit, il est écrit. Eh bien, nous éviterions pas mal de problèmes, c'est écrit. Alors voilà, il nous faut revenir à l'autorité de l'Écriture. L'autorité de l'Assemblée aussi. Assemblée au nom du Seigneur, le Seigneur est présent, ne serait-il que deux ou trois, est présent au milieu des deux ou trois. C'est son Assemblée, il va s'en occuper. Peut-être seront-ils obligés, cela, pour obéir à la parole, justement, d'agir en discipline sur l'un, sur l'autre, comme nous le voyons dans les Corinthiens, et comme nous le voyons aussi dans Tite, on rejette l'homme sectaire après une première, une seconde admonestation. Il y a donc une discipline à maintenir, ce qui ne concerne pas le salut de celui qui est discipliné. Ça concerne son témoignage, ça concerne sa marche en communion avec les autres. Par exemple, on rejette l'homme sectaire après une première, une seconde admonestation. C'est clair, ça. Sectaire, c'est celui qui forme une secte autour de lui. Celui qui tire les disciples après lui, le sectaire. C'est pas l'homme étroit au sectaire. On confond les deux mots. Et étroit, on est étroit, il faudrait bien qu'on soit un peu plus étroit que nous sommes, certains. Celui qui suit très exactement l'Écriture, il est étroit, il n'admet pas du tout le moindre écart. On dira, c'est un homme étroit, oui. Le sectaire, c'est pas ça. le sectaire, c'est celui qui prend, qui tire les disciples après lui. On trouve des... J'ai relevé, là, tout le monde peut le vérifier, j'ai relevé dans des messagers anciens, 69, c'est pas très ancien. L'esprit sectaire consiste à rechercher la domination sur un petit cercle autour de soi. Et puis, une autre définition, dans un messager, l'homme sectaire est celui qui crée un parti au sein de l'Assemblée. Il ne s'agit pas nécessairement d'un faux docteur, mais, bien que ce soit fréquemment le cas, à la base d'un tel comportement, on trouve presque toujours une opinion personnelle concernant un passage de l'Écriture. Mais ce qui en est, c'est que l'homme sectaire est celui qui forme un groupe au milieu d'un ensemble. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Dans le dictionnaire, là-haut, au revers, vous trouverez ça comme homme sectaire. La secte, c'est ce qui sépare un certain nombre de personnes d'un nombre plus grand au milieu de l'Assemblée, des groupes qui se forment au milieu de l'Assemblée. C'était le cas à Corinthe, par exemple, n'est-ce pas, c'était là. Il y avait des sectes, des écoles de pensée, c'est pas forcément des fausses doctrines, mais c'est... Et à qui qu'il lui a dit, rejette l'homme sectaire. Après une première, une seconde admonestation, je lis là, n'est-ce pas, au chapitre 3, verset 10 de Tite, rejette l'homme sectaire après une première, une seconde admonestation, sachant qu'un tel homme est perverti et pêche, étant condamné par lui-même. Nous avons besoin de prendre garde à cela. Nous avons besoin d'agir selon la parole. Alors la parole fera autorité dans l'Assemblée. Et bien sûr, puisque c'est un seul corps, la position prise par une assemblée est valable pour toutes les autres, décision prise dans une assemblée. Autorité de l'Écriture. Unité du corps et autorité de l'Écriture. Et puis la direction de l'esprit, ce qui en conséquence ne permet pas à un homme d'être à la tête, mais que l'esprit puisse agir dans l'un ou dans l'autre de ceux qui sont présents, qui sont disponibles pour l'esprit, qui doivent l'être disponibles. Je ne veux pas dire que tous dans un rassemblement pour le culte, par exemple, je ne veux pas dire que tous doivent prendre la parole, c'est ce que je veux dire, mais que tous au moins soient disponibles, que si l'esprit leur suscite une pensée, n'est-ce pas, leur donne une pensée, leur donne une idée de cantique, qu'ils osent le dire. Parce que finalement, si les frères restent toujours en arrière, toujours dans le silence, on donnera la direction à un frère qui ne l'aura pas cherché. Mais il faut bien que la réunion se passe. Nous sommes réunis pour rompre le pain. Alors on ne va pas être là pendant une heure ou deux, muets autour de la table du Seigneur, puis sans rompre le pain et s'en aller. Non, nous sommes venus pour rompre le pain, pour adorer Dieu, pour rendre le culte que Dieu attend de l'Assemblée. Il faudrait quand même que les frères pensent qu'ils ont un rôle à jouer, tous, pas seulement les plus anciens, pas seulement les plus capables, mais tous, c'est ça. Et que si l'Esprit les y conduit, mais qu'ils disent une parole. Il n'y a pas besoin de faire un discours au Seigneur. On entend quelquefois des frères qui rappellent au Seigneur des quantités de passages que le Seigneur connaissait d'ailleurs avant eux, n'est-ce pas, évidemment. Il s'agit de dire ce qu'on a dans le cœur. De dire un mot chez le Seigneur, ce qu'on a dans le cœur. Le remerciement qu'on a dans le cœur, n'est-ce pas, la reconnaissance qu'on a pour le Seigneur dans le cœur. Si toutefois on en a. Il y a quand même, si nous considérons le prix qu'il a payé pour que nous soyons là autour de lui, il y a quand même bien un peu de reconnaissance dans nos cœurs. Et nous aurons bien dire trois mots pour dire que nous le remercions. Et s'il n'y avait plus d'action dans les réunions d'assemblée, plus de frères qui participent et qui soient exercés pour participer, parce qu'il ne s'agit pas non plus de venir en disant « bon ben je vais leur faire un discours ». Non, non. Mais s'il n'y avait plus de frères qui participent, peut-être on trouverait les réunions moins mornes, que ce qu'on reproche aux réunions des frères, elles sont mornes, elles sont toujours les mêmes. Je sais bien qu'il y a des cœurs endormis qui trouveront toujours toutes les réunions mornes. Mais il y a quand même des frères qui peuvent être réveillés, qui sont réveillés, et qui, aussi, on trouve normal qu'ils soient toujours les mêmes, qui parlent, toujours les mêmes, qui agissent, n'est-ce pas ? On se dit, bon, ben, c'est pas la peine de critiquer ceux qui n'ont pas pasteur, puisque nous aussi, on en a un autre. On a garde à cela, n'est-ce pas ? Nous sommes responsables, tous. Je ne juge pas là ceux qui parlent. J'aurais du mal, d'ailleurs. Mais, tous, nous sommes responsables, et même les sœurs doivent prier pendant ces réunions, n'est-ce pas ? Les sœurs sont participantes, Les sœurs ne sont pas, des spectatrices. Elles ne sont pas là venues à la réunion pour voir ce que les frères vont faire. Les sœurs sont venues pour adorer le Seigneur. Le Père en cherche de tels qu'il l'adore, les sœurs comme les frères. L'adore. Donc il y a une disposition de cœur, donc il y a un travail de cœur. Il faudrait repenser à cela. Alors, il serait plus aisé de régler les affaires qui s'élèvent parmi nous, parce que, bien sûr, nous sommes des hommes. Alors forcément, il y a beaucoup de faiblesses, forcément, il y a beaucoup de manquements, et ça fait des affaires, ça fait des troubles dans l'assemblée, et quelquefois, il faut les régler, il faut mettre les choses en lumière, il faut prendre des positions difficiles quelquefois à prendre, parce qu'on se trouve d'avis différents. Mais nous aurions plus d'aisance pour régler ces questions-là si vraiment nous marchions par l'esprit dans l'assemblée, si l'esprit avait sa pleine liberté dans l'assemblée, si nous étions plus soumis à l'écriture, la connaissant mieux. Oui, nous aurions plus d'aisance. Ce sont des choses actuelles, je crois, auxquelles il nous faut repenser. Le Seigneur va se présenter à lui-même, l'assemblée sans tache ni ride, ni rien de semblable, bien sûr, c'est le Seigneur qui le fera. Sans doute, il le fera parfaitement. Comme c'est le Seigneur qui ramènera son peuple dans son pays pour lui donner le royaume. Ce n'est pas le peuple qui conquérera le pays, c'est le Seigneur qui l'amènera dans le pays. Une fois qu'ils se seront tournés vers celui qu'ils ont percé, alors à ce moment-là, le Seigneur agira en délivrance et établira le royaume. Pour nous qui connaissons ces choses, nous devons en tirer leçon. Elles ont été écrites aussi bien pour nous que pour les Juifs qui n'y comprennent rien. Mais elles ont été écrites pour nous servir d'exemple. Et nous avons besoin d'y réfléchir pour que nous puissions les amener dans la pratique de l'Assemblée. Car tout l'Ancien Testament nous parle de l'Assemblée. Le mot n'y est pas. La révélation n'y est pas. Elle était réservée à Paul, la révélation. Mais néanmoins, comme les similitudes entre les deux, les parallèles qu'on peut faire entre les deux sont remarquables. Quand on pense à ce qu'était la maison de Dieu à Jérusalem, quand on pense à ce qu'était le service des Lévites, des sacrificateurs, des chantres, les similitudes avec l'Assemblée sont remarquables. Et il y a pour nous de l'instruction en cela. Que Dieu nous conduise à, je dirais, comme dans l'Apocalypse, repens-toi, souviens-toi d'où tu es. Je crois que nous sommes à un moment dans la vie du témoignage dans notre pays où il serait bon que nous nous repentions et que nous marchions avec un nouveau zèle.